Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polotec.
Et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Dominique Bourrel, historien, directeur du Centre de recherche français de Jérusalem de 1996 à 2004, pour la deuxième émission de Mémoire vive consacrée à votre biographie de Martine Buber que vous venez de publier chez Albin Michel, Martine Buber, sentinelle de l'humanité, parue avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Philosophe, penseur juif et sioniste humaniste, nous l'avions laissé dans la précédente émission en 1938, dans l'Allemagne nazie, à l'aube de son départ pour Jérusalem, où il vient enfin d'obtenir une chaire de sociologie.
Oui, alors vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire. Il part à l'âge de 60 ans. Hein. Il va recommencer une vie à 60 ans. Et ce qui est le plus extraordinaire encore, c'est que l'autre grand juif allemand ou autrichien qui part aussi, cette fois-ci en direction de Londres, Freud, ils partent à un ou deux mois de différence. Buber part en février-mars et Freud en juin. Ils ont tous les deux dans leur sacoche, si je puis dire, un livre sur Moïse. Et vous, quand vous lisez ces deux livres sur Moïse, c'est tout à fait extraordinaire. L'un part en Terre Sainte, comme on disait à l'époque, et qu'on dit encore un peu maintenant, et l'autre part à Londres et va mourir, comme vous savez, un an après. Alors Buber arrive en Palestine, où il connaît tout le monde, où beaucoup de gens l'admirent, où quelques personnes le redoutent un peu, et où il a une chaire d'anthropologie, de philosophie de la société, à l'université hébraïque, qu'il a donc contribué à fonder, pour la raison très simple, c'est que pour les religieux, il n'est pas assez religieux, puisque tout le monde sait qu'il ne respecte pas les mitzvot, mais pour les philosophes, il est trop théologien. Et donc, on va lui bricoler, en fait, une espèce de chaire de philosophie de la culture, de philosophie de la société. Il a un hébreu tout à fait extraordinaire, un peu synagogal, qui ressemble à celui qu'avait Lévinas, d'ailleurs, avec un hébreu comme ça, assez délié. Et il sait, bien sûr, toutes les langues. J'ai bavardé avec, un jeune sociologue, qui est Shmuel Eisenstadt, qu'on a enterré il n'y a pas très longtemps, qui a été le grand Manitou de la sociologie israélienne, qui était son assistant. Et qui me racontait que ses cours étaient absolument fascinants, parce que, bien sûr, c'était une antenne directe avec l'intelligentsia européenne. Il sortait de ses poches comme un magicien des colombes et des œufs, des textes dans la langue originale, bien évidemment, de Max Weber, de Dostoïevski, de Talcott Parsons. C'était tout à fait extraordinaire. Donc il est devenu rapidement, très vite d'ailleurs, une espèce d'icône. Mais avec les avantages et les inconvénients, d'abord l'université du Mons Caucasus, comme vous savez, est sur la hauteur, et donc il y avait une certaine différence entre les gens qui vivaient tous les jours à Jérusalem et les mandarins de l'université. Et en plus, cette université était bien sûr une université quasiment à 100% ashkénaze, et surtout allemande et autrichienne, puisqu'à partir de 1933, beaucoup de savants autrichiens et allemands étaient venus rejoindre la Palestine. Parfois, on en parlait tout à l'heure, contraints et forcés, des gens qui, bien sûr, n'avaient pas du tout l'intention de venir en Palestine, ou en tout cas, comme certains grands arabisants, par exemple, ils venaient 6 semaines, 2 mois pour faire un cours et repartaient après à Berlin ou à Francfort, parce que quand même, il fallait rester dans l'université. Alors, il y avait à l'époque, il y a une grande colonie allemande qu'on appelle les Yekés, puisqu'ils ont gardé leur costume toute la journée, la cravate, par 40 degrés à l'ombre, et donc la Yake, et en plus, certains savaient très mal l'allemand, d'autres d'ailleurs pas du tout, et donc l'étymologie en hébreu c'est Yehudi Kache Havana, c'est-à-dire le juif qu'elle a comprenait difficile, quoi, hein, à qui il faut dire 3 fois les mêmes choses, et forcément le reste ce Yishuv était composé soit de juifs de la deuxième alia de Russes, hein, soit de gens qui étaient des Levantins, qui étaient d'ailleurs déjà là depuis longtemps, et donc ces juifs allemands ont eu une fâcheuse tendance, il faut être très honnête, à donner des leçons à tout le monde, à se croire extrêmement supérieurs. Mais alors justement, et les enfants de Buber m'ont souvent dit ça, m'ont dit, mais vous savez, lui, il n'était pas vraiment yéké, c'est-à-dire il vient trop de Vienne, comprenez, il vient de Mitteleuropa, et très souvent il dit, je suis un Ostjude. D'ailleurs, c'est un des meilleurs danseurs du sionisme, c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup les bons vins, c'est quelqu'un qui est toujours impeccable, en costard-cravate, etc. Donc il a un petit côté viennois, il l'a gardé, et puis il l'a un peu renforcé après, parce qu'il avait 60 ans, donc il craignait personne, même pas Ben Gourion, et donc il a gardé un peu par provocation ce côté salonard, et les méchantes langues disent que sa barbe était toujours extrêmement parfumée, ce qui est quand même mieux que d'avoir une barbe sale. Mais enfin, semble-t-il, c'est un argument qui parfois est décisif. Et alors là, il a habité au d'abord rue Brenner, dans une maison qui appartenait à la famille d'Edouard Saïd. Et ensuite, il a habité du côté des Arabes à Abou Tor, puisque, vous le rappeliez, à partir de 1925, il avait créé ce groupe extrêmement important qu'on a appelé le Brit Shalom, et après qui s'est prolongé dans le Ihoud, qui veut dire donc l'union, jusque dans les années 60, qui était intransigeant sur cette théorie qu'il fallait absolument trouver un terrain d'entente avec les Arabes, que c'était pas le tout de faire un État, que si cet État devait après faire la guerre pendant 60 ans, c'était vraiment pas la peine. Je parle là d'avant la Shoah, bien évidemment, et quand aujourd'hui on a le privilège d'habiter Jérusalem ou Israël, on s'aperçoit que de temps en temps, il a été quand même assez clairvoyant, ce qu'on lui reproche d'ailleurs, bien évidemment. Hein. Et donc, il a habité pendant un moment à Abou Tor, donc dans la partie arabe de Jérusalem, et il ne voulait pas partir au moment, pendant les combats, il est toujours resté d'ailleurs à Jérusalem, sa famille aussi. Il avait après exfiltré Paola et ses enfants qui étaient du côté Achéravia, donc du côté non seulement juif de Jérusalem, mais du côté Yéké et du côté allemand de Jérusalem. Et lui a dit, moi c'est très simple, d'abord les Arabes sont mes amis, ils me connaissent, il ne m'arrivera rien, et de toute façon j'ai mes milliers de livres que je ne quitterai pas. Et donc, avant de le faire, alors plus on a des descriptions extraordinaires des jeunes de Tsahal qui arrivent les livres de Boubert servaient dans les fenêtres avec les sacs de sable pour éviter que ça tire. Donc on a trouvé la solution suivante: l'agent juif distribuait des sacs de farine pour le pain et pour les postes avancés. Et donc on s'est dit, quand les camions vont revenir à vide, on va passer par chez les Boubert et on va embarquer sa bibliothèque, parce que sinon il va prendre une balle perdue. Ce qui fait, et c'était un motif de blague pendant des années, il y avait dans les livres de Boubert toujours un peu de farine, il les ouvrait comme ça, il les secouait avant en racontant cette histoire, et donc après il a habité Talbiyeh, qui était Rovevei Tzion, donc, et qui était un quartier d'ailleurs assez mixte aussi judéo-arabe de Jérusalem.
Pendant la guerre en Europe, celle-ci, lui, il continue à écrire, et c'est en 1941 que sera publié le roman Gog et Magog.
Voilà, il a beaucoup travaillé, il disait d'ailleurs, c'est paradoxal, il a beaucoup travaillé, il a commencé à publier en hébreu, donc à enseigner en hébreu, à écrire en hébreu, et vous avez raison, il a publié ce roman chassidi, ce roman à thèse tout à fait extraordinaire qui est Gog et Magog, qui a d'abord été publié en série dans la revue d'Avar, et dont ensuite il a fait un livre, et il a publié aussi ses cours d'anthropologie, donc c'était l'anthropologie philosophique qui devait suivre Je et tu, hein, et c'est ça qui vient d'être réédité d'ailleurs aussi aujourd'hui aux Belles Lettres. C'est ses cours qu'il a donnés en hébreu et qu'il a après retravaillé dans toutes les langues et dont il est venu parler à la Sorbonne. Mais il a aussi fait partie bien sûr de ces quelques mouvements désespérés qui ont essayé d'alerter l'opinion publique sur ce qui se passait dans l'Europe, puisque comme vous savez, à peu près au moment de l'été 42, on a commencé à savoir ce qui se passait. Il y a un livre catastrophique et affreux qui est sorti, traduit en français aussi, d'ailleurs, je crois pas, avec l'aide de la Fondation, qui s'appelle En page 4 ou En page 7, hein, c'est-à-dire dans les pages 7 des journaux américains, on commence à travailler et à expliquer le génocide, pour des raisons d'ailleurs aussi très compliquées, comme aujourd'hui le New York Times était la propriété d'un juif, allemand bien sûr, mais américain, s'appelait Salzberger, et bien sûr celui-là voulait pas trop parler de choses juives, et puis les camps de concentration et cette tragédie étaient tellement hors entendement, quoi, que pendant un moment on a cru, comme vous savez, à une manipulation, à des mensonges, etc. Mais très tôt, Boubert a été actif aussi dans ces moments-là.
Sur la question de la Shoah, il faudra attendre pourtant 1953 son livre « L'éclipse de Dieu » pour qu'il aborde d'une certaine manière le sujet.
Vous avez tout à fait raison, mais vous savez, pour avoir beaucoup pratiqué cette génération-là, c'est le cas aussi de Gershom Scholem, c'est le cas aussi d'autres, il y a une telle sidération de la douleur, stupéfaction de ce qui s'était passé, que ces gens n'ont pas beaucoup parlé en réalité. Bon, lui, d'après les informations qu'on peut avoir, sa famille n'a pas été, une partie de sa famille qui est restée en Pologne a été bien évidemment anéantie, mais sinon, comme la famille était assez restreinte, ils sont tous partis, ils étaient tous à Jérusalem et en Israël. Mais en réalité, lui-même a eu beaucoup de mal à théoriser, puisqu'encore une fois, lui, n'oubliez pas qu'il croit en Dieu. C'est un des seuls. Hein. On raconte toujours l'histoire de la stupéfaction de Hannah Arendt, entendant Golda Meir, qui dit « Non, 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 mais moi, je ne crois pas du tout en Dieu. Je crois dans le peuple juif, je crois dans Israël, mais je ne crois pas en Dieu. » Et tous les gens autour de Ben-Gourion, tous ces bons sionistes, sont des sionistes, sinon communistes, du moins moins socialiste. Buber, pas du tout. Buber est quelqu'un qui croit en Dieu, donc qu'est-ce qu'on fait avec un Dieu qui laisse massacrer 6 millions de Juifs? D'où l'idée tout à fait extraordinaire de l'éclipse de Dieu. Et vous avez raison, il y a dans ce livre, d'ailleurs aussi une mise en cause de Heidegger, il y a tout son rapport avec les Allemands et avec les chrétiens, puisqu'après la guerre, là il va faire une expérimentation, si je puis dire, de jeu étu. Qu'est-ce qu'on fait là? On reste tout seul comme des autistes? Non, bien sûr, il faut de nouveau renouer le dialogue. Avec qui? Avec les Allemands plutôt qu'avec l'Allemagne, sachant que les Allemands, il y avait quand même des Allemands qui avaient aidé des Juifs, les chrétiens, la même histoire, sachant qu'il y avait des chrétiens qui avaient caché des Juifs, etc. Et donc, petit à petit, il va avoir cette conscience-là de la Shoah et va toujours parler, quand on lit attentivement ses articles. Mais c'est vrai que pour cette génération, si vous voulez, c'est inthématisable. D'ailleurs, pour qui c'est thématisable, c'est un autre problème. Hein. Qu'est-ce que vous voulez écrire là-dessus? Est-ce que vous voulez continuer de chercher des explications, de trouver qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ça? Là, j'ai de gros doutes. Et c'est pour ça que je pense que Scholem lui-même a écrit à Adorno dans les années 42-43, quand Adorno lui dit « on va s'occuper l'Institut für Soziale Forschung qui est en Amérique », où il dit « on va s'occuper d'antisémitisme », Scholem lui dit « je vous présente toutes mes condoléances ». Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? En plus, comme disait Leibovitz, l'antisémitisme, c'est un truc des goy. C'est une histoire de goyim, ça. C'est aux goyim de s'occuper de ça. C'est pas aux juifs de faire ce travail, de compter les cadavres, de travailler sur le cyclone B. C'est bien s'ils le font, mais c'est pas... Et ça, je crois que c'est très vrai. Et en Israël, ça fait très longtemps qu'on est préoccupé par ça. Mais lui-même a toujours, dans Yad Vashem et dans tout ça, il était bien évidemment partie prenante, parce qu'il était une icône et quelqu'un de très respecté.
Oui, c'est ça. Et c'est aussi cette figure-là, le fait qu'il ait ce resplendissement-là, qui va lui permettre de reprendre d'une certaine manière des relations avec l'Allemagne, via Zurich, hein, puisque apparemment il n'y avait pas de liaison postale entre Jérusalem et l'Allemagne. En 51, il reçoit le prix Goethe, un prix qu'il viendra chercher seulement 2 ans plus tard, et un retour qui, j'imagine, aura un retentissement aussi bien énorme en Israël qu'en Allemagne.
Énorme, parce que vous savez que sur les premiers passeports israéliens, il y avait marqué valable sur tous les pays sauf l'Allemagne. Hein, et donc, il ne voulait pas justement provoquer. En plus, à ce moment-là, en 51, ça tombait bien, il était aux États-Unis, mais il a écrit aux gens de Hambourg qui lui avaient donné ce prix Goethe en lui disant « Écoutez, moi, je ne veux pas provoquer pour l'instant, donc j'accepte ce prix, et puis on va voir quand je vais venir le chercher. » Et il a eu raison, parce qu'il a été attaqué immédiatement à la Knesset, dit, mais qu'est-ce que c'est que ce professeur de l'université hébraïque qui accepte un prix des Allemands? En plus, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, on commence les négociations sur les Shilumim, sur la Wiedergutmachung, sur les réparations. Et donc, il était trop politique et trop responsable pour interférer avec ça. Mais encore une fois, en 48, donc il avait 60 ans en 38, il a donc 70 ans en 48, et j'allais dire, non seulement c'est un grand garçon, mais c'est une star. Hein, donc, comme on m'a dit après, en fait, les gens lui ont voulu un peu parce qu'il était le premier à faire ça, mais en réalité, c'était très bien qu'il le fasse, parce que justement, il était, lui, puis en plus, il est resté, il habitait, il avait sa maison à Jérusalem. Donc, il était pas suspect, si vous voulez, d'essayer d'aller prendre une chaire quelque part ou de partir quelque part.
Il va à nouveau faire entendre sa voix dissonante lors du procès Eichmann en 1961. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, il va prendre des postures absolument...
C'est pour ça que c'est un intellectuel, hein, c'est pas un politique. Il respecte beaucoup les politiques, il sait que c'est très important, la création de l'État, etc. Mais il a aussi ce rôle critique. Et il le dit toujours à Ben-Gourion qui avait après des rencontres d'intellectuels, 48, 49, 50, il y a des débats très connus, où Buber venait bien évidemment... Et Buber lui dit, bon, on a un État maintenant, et alors? Und, Asma, qu'est-ce qu'on fait là? Maintenant, on a un État, on fait la guerre, on a une armée, on va où là? Alors, on comprend bien que c'était son rôle, quoi. Et une ou deux fois, d'ailleurs, Buber lui dit, ça suffit, maspic, on a les textes comme ça, où il y a les protocoles. Hein. Et vous avez raison, à chaque fois, par exemple, pour le régime militaire qui était imposé à ce moment-là sur la Palestine, où il écrit, quand il y a des catastrophes avec des certaines unités de Tsahal qui font des drames, ça a été ponctué en permanence, de drames qui, d'ailleurs, souvent répondaient à des infiltrations. Vous comprenez, c'est pas simplement un simple pacifiste et un angélique, Buber. Il sait très bien que ses amis arabes, quand ils viennent discuter avec lui, le lendemain, il y en a qui ont été assassinés. Vous comprenez ? C'est pas une belle âme comme ça, comme on a essayé de le dire. Et alors, le procès Eichmann, qu'est-ce qu'on allait faire ? On allait réintroduire la peine de mort pour ce petit bureaucrate, alors que cette peine de mort avait disparu du monde juif, et il y avait tout ce débat. Alors, il voulait justement, avec d'ailleurs beaucoup de ces gens du Brit Shalom, donc de l'Ehoud et des universitaires, en disant il faut qu'on trouve une alternative, il faut essayer de trouver soit une grâce, soit quelque chose. Et là, il a d'ailleurs d'ailleurs, il y a une correspondance formidable aussi après avec les hommes politiques là-dessus. Et en fait, il va se plier comme tout le monde d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de solution. On n'allait pas le mettre. Il y en a quelques-uns qui voulaient le mettre dans un kibboutz, quasiment avec un bracelet électronique, pour qu'il voie que le peuple juif qu'il avait voulu anéantir était maintenant un peuple fort, etc. C'était bien évidemment pas raisonnable.
En 1963, on fête avec Fast ses 85 ans. Il mourra donc le 13 juin 1965 à Jérusalem. Ben Gourion sera l'un des premiers à venir. La Knesset observera une minute de silence. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quelle place a eu Buber en Israël ?
Bien sûr. Alors, il est passé, si je puis prendre une métaphore un peu chrétienne, il est, comme pour tous les grands penseurs, il y a une durée de purgatoire. Dans la philosophie israélienne, dans la sociologie israélienne, il y a eu une espèce d'énorme impact du monde anglo-saxon, des Américains, des universités américaines, etc. Universités américaines qui, en réalité, avaient été renflouées par des savants de la Middle Europa et qui venaient de Vienne et de Heidelberg et de Berlin. Et donc, pendant un moment, il est passé pour une belle âme et on a arrêté de le lire, sauf les textes sur le chassidisme. Parce que là, malgré la polémique avec Scholem, malgré les polémiques des historiens, en disant, vous savez, quand même, on a regardé ces textes de près, vous en rajoutez un peu, ça, c'est toujours resté dans la bibliothèque, encore aujourd'hui, dans la bibliothèque des Israéliens. L'anthologie s'appelle Or Haganouz, et vous la trouvez, et les gens vous disent, pour moi, c'est ça, Buber. Donc, pendant un moment, il y a eu effectivement une phase d'absence, parce qu'il y avait aussi, en Europe, le structuralisme, la linguistique, et toutes ces affaires-là, la fin de l'anthologie. Mais depuis une quinzaine d'années, ça, c'est très frappant, on le retraduit. En plus, Buber est un philosophe allemand, hein, donc il est comme Heidegger, il a une langue merveilleuse, et dès que vous la traduisez après, ça, y a c'est lost in translation. Hein.
Parce qu'il y en a qui disent qu'il est difficile.
Ça, faut pas exagérer. Non, les traductions françaises sont très bonnes, c'est pour ça que je dis ça, il faut pas penser. Mais c'est vrai que souvent, il écrit bien, vous comprenez, donc il a un côté, on se fait ensorceler, hein, on se fait un peu... Alors les philosophes n'aiment pas ça. Les philosophes n'aiment pas. Les philosophes, ils aiment bien que ça soit bien rangé, quoi. Hein. Et comme il a exactement comme Heidegger, il a un certain jargon comme ça. Hein. Et ensuite, alors, il a été redécouvert dans les années 60, à partir du moment où on a découvert de nouveau Walter Benjamin, Franz Rosenzweig. Et alors, en France, mon maître, Emmanuel Lévinas, citait Buber, bien sûr, puisque le jeu étu est central pour la compréhension des rapports de l'altérité et des rapports de l'autre. Il y a un débat très prolongé entre Lévinas et Buber, puisque, je sais pas s'ils se sont rencontrés, je pense que oui, si, parce qu'il a invité, parce que Buber venait souvent à Paris, il parlait très bien le français, il a été invité plusieurs fois, et donc il y a un dialogue inscrit, écrit, publié entre Buber et Lévinas, absolument,
deux,
ouais. Il y a une correspondance entre ces deux hommes, et donc à ce moment-là, on a recommencé de le traduire en hébreu, dans un meilleur hébreu, il faut le dire, et là je vous expliquais, Je et tu a été traduit en hébreu il n'y a pas encore très longtemps, et alors dans tous les domaines de l'éducation, dans tous les domaines de la civilisation du kibboutz, là c'est du Buber à toutes les lignes. Alors même si c'est simplement une révérence, une icône, un nom, ça après, il faut regarder dans le détail les gens qui l'ont vraiment lu, qui s'en réclament moins, qui se réclament de son nom. Buber a été un peu avant Leibowitz la conscience critique d'Israël. Hein. La conscience critique et le pont avec les États-Unis et avec l'Europe. Dans les sit-in contre la guerre du Vietnam, les hippies américains brandissent « Je et tu ». Quand vous avez cette photo célèbre de Martin Luther King qui va faire la manifestation pour l'égalité des droits, à côté de lui, vous vous souvenez, il y a un homme à la barbe blanche avec ses cheveux blancs, c'est Heschel. Heschel est le disciple direct de Martin Buber. Il lui a même succédé un petit moment à Francfort avant de partir aux États-Unis. Donc vous voyez, tout ça est en plus fascinant à étudier parce que c'est des effets sous-cutanés où tout d'un coup, il y a un texte, tout d'un coup, il y a des noms. Et alors, bon, pour la scène alternative, après, il suffit de lire Ginsberg, d'écouter Leonard Cohen. Tout ça, il y a du Buber à toutes les phrases. Bon, Leonard Cohen, c'est un fils et petit-fils de rabbin. Donc, quand vous rentrez chez lui, vous avez les récits chassidiques qui sont sur la table. Hein. Donc, vous voyez, c'est très intéressant de voir les niveaux d'écho du nom et de l'œuvre de Boubert. Alors en France, encore une fois, par Emmanuel Lévinas, on a très tôt lu du Boubert. Non, André Néher le connaissait aussi très bien. Et puis Néher a fait pendant longtemps le pont entre la jonction entre Israël, entre Jérusalem et l'université européenne. Et en plus, tous les disciples d'André Néher étaient souvent des germanistes. Je pense à Théo Dreyfus, je pense à Benno Gross. Tous ces gens-là, justement, sont de langue allemande et ont d'abord fait soit de la germanistique avant de faire la philosophie, etc. Donc c'est des gens qui avaient un accès direct avec la pensée et avec le monde de Boubert.
Mais sur son regard sur le sionisme, on revient un peu plus tôt, au début des années 50, je crois qu'il est intervenu notamment sur la question des biens des absents. Comment il était entendu à l'époque ?
Ben aussi de manière un peu critique. C'était une voix quand même un peu dans le désert, puisque on pensait... Là, il y avait encore, de toute façon, l'administration militaire. Hein, donc c'était des choses dont on n'avait pas le droit de parler. Mmh. Il a été un des premiers à rencontrer justement des Égyptiens, des Marocains et des Tunisiens dans ces colloques organisés par l'APIRA à Florence dans les années 60. Et ces gens-là venaient simplement parce qu'ils savaient qu'il y avait Boubert. C'était un Israël... c'était l'Israélien... L'Israélien qu'on pouvait montrer, quoi. C'était l'Israélien dont on savait très bien qu'il avait été Israélien à partir de 1960 ou à partir de 1948, quoi, pour le dire. J'allais dire 38, mais à partir de 48, quoi. Sinon, c'était interdit. Vous ne pouviez pas, justement. On parlait de bien des absents. On parlait de c'était quelque chose, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel la plus grande discrétion s'impose. Hein. Et c'est toujours difficile de commencer à travailler sur ces questions-là parce que c'est dramatique, tout simplement. Et heureusement, je dis heureusement, enfin, Boubert est mort en 65, donc il y avait encore probablement un peu d'espoir, il y avait encore une véritable vie intellectuelle, politique du côté des Arabes, qui encore une fois, qu'il connaissait lui très bien, il a voulu installer des cours d'arabe avec des bibliothèques partout.
Il voulait que les Arabes puissent aller à l'université, au départ c'était son projet.
Absolument, non, cette idée d'État binational aujourd'hui, ça nous paraît complètement baroque, mais à l'époque, vous ne devez jamais oublier que les Juifs ne sont que 10%, voire 15% dans cet État. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On arrive dans un État, on dit bon, on est revenu chez nous, c'est une affaire entendue, mais on n'est encore que 15%. Mmh. Et on veut 50-50 à la Knesset, enfin dans le Parlement. Mmh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il faut quand même expliquer ça aux gens, et pas seulement leur rentrer dans le chou, sous prétexte qu'eux-mêmes, forcément, font des infiltrations. Encore une fois, c'est pas un angélique. Hein. Les gens avec lesquels il est entraîné, il les a bien vus disparaître. Et lui-même, d'ailleurs, disait, écoutez, on va aller se voir ailleurs, parce que... Et c'est la situation qu'on a eue, souvenez-vous, jusque dans les années 80. Enfin, je crois que les premières négociations, je crois que Shimon Peres est arrivé déguisé en femme avec Yossi Belin pour pouvoir parler avec Yosser Arafat. On se souvient plus de ça parce que forcément les choses passent très vite. Mais il faut pas oublier ça. C'était quand même un traumatisme énorme. Et alors dans cette génération-là, forcément, Boubert, pour cette première génération, Boubert était une espèce de philosophe éthéré comme ça, professeur salonard de Vienne. Et puis on doit jamais oublier, chose qu'on a quand même un peu oublié, la première génération que Alfred Kessler. Arthur Kessler les appelle les Tarzans juifs. Faut pas oublier les gens des kibboutz, c'est les beaux blonds bronzés sur leur tracteur. Hein. Il n'est pas question de se remettre à faire du Lernen, à faire du Raider. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Les livres, les profs, tout ça. Non, non, on est sur notre tracteur, dans un champ, et on fonde un pays. Alors vous comprenez, les profs, les intellos, les gens qui lisent Rosenzweig, c'est pas notre affaire. On a oublié, mais il y a tout un courant anti-intellectualiste, et en tout cas anti-intellectuel Europa, quoi, en disant que ça va, l'Europe, c'est réglé. Ce qui était d'ailleurs très intéressant, parce que de savoir, et ce que toujours Boubert a dit, alors on est quoi ? Alors ok, on n'est pas des Européens, mais on n'est pas non plus des Asiatiques. Hein ? Donc c'est l'idée de faire le pont, l'idée de dire, nous les Juifs, à Jérusalem, on fait justement les ponts entre ces deux mondes. Et ça, c'était une idée extraordinaire, c'est une idée géniale d'ailleurs. Hein ? Il y en a quelques-uns qui l'ont encore en disant, ben, on va essayer de continuer de tenir ça des deux côtés. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du tout actuel, mais on ne sait jamais, il ne faut jamais donner des hypothèques sur l'histoire.
Je vous remercie beaucoup, Dominique Bourrel, d'être venu. J'invite donc les auditeurs à découvrir votre livre passionnant, Martine Buber, Sentinelle de l'humanité, qui est paru chez Albin Michel avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Je signale également la diffusion prochaine sur Arte du film réalisé par Pierre-Henri Salfati, Martine Buber, itinéraire d'un humaniste, produit à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort et dont vous avez été également le conseiller historique. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.